Média et numérique libre.
Ondulation.
Média et numérique libre.
Bonjour Rémi Miret. Vous êtes donc journaliste en chargé de mission digitale et réseaux sociaux au sein du Berry, du Dauphiné Libéré. Mille excuses pour mes auditeurs, j'ai travaillé au Berry Républicain avant. Et concrètement, voilà, je voulais d'abord vous demander en quoi un tel poste consiste au sein d'un groupe de presse comme le Dauphiné.
Eh bien, dans un premier temps, je suis arrivé avec cette mission qui consistait à accompagner et à mettre en place la stratégie digitale et réseaux sociaux, puisque l'année 2024, c'est l'année justement d'une nouvelle réflexion, parce que c'est pas la première évidemment. Et donc, je suis arrivé dans ce but-là. Entre-temps, ma mission a évolué et elle s'est orientée davantage et quasi exclusivement sur les réseaux sociaux, puisque la social media manager est partie, a quitté l'entreprise, et que j'ai pris la gestion donc des réseaux sociaux et de ses contenus d'information par intérim. Je suis donc aujourd'hui quasiment exclusivement dédié aux réseaux sociaux, donc le pilotage des contenus d'info sur les réseaux sociaux du Dauphiné Libéré et de la production de contenu également.
Ça fait depuis combien de temps que vous travaillez un peu sur ces questions autour du numérique, réseaux sociaux ?
Alors, je dirais que j'ai à peu près toujours travaillé là-dessus, puisque en tant que journaliste de terrain, j'ai toujours connu j'ai même vécu cette transformation du print vers le multimédia. Et par contre, donc cette casquette de chargé de mission digitale et réseaux sociaux, je la porte depuis 6 mois maintenant, et donc j'occupe le nouveau poste exclusivement réseaux sociaux depuis 3 mois.
Alors, dans votre expérience d'exercice en presse quotidienne régionale, pour vous, que représentent aujourd'hui les réseaux sociaux aux yeux des éditeurs des presses et quelle évolution on peut relater par rapport à cette relation ?
Eh bien, je dirais qu'ils sont essentiels, indispensables. Aujourd'hui, il n'y a pas, ou alors si peu, d'éditeurs de presse, de journaux, de titres qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. C'est the place to be et pas juste pour s'amuser, c'est indispensable. On est obligé en tant que média déjà d'assurer une veille des réseaux sociaux, de se tenir au courant des nouvelles plateformes, des nouvelles pratiques, des nouveaux contenus. C'est une tendance évidemment qui est à suivre parce qu'il y a cet effet nouveauté, parce qu'il y a des utilisateurs sur ces plateformes, mais aussi qui a été contrainte en quelque sorte par différentes évolutions. Alors, je vais commencer par Google, c'est pas un réseau social, mais
c'est parti de ce qu'on appelle les GAFAM, ouais, voilà.
Voilà, c'est ce qui, comment dire, la modification de son algorithme a engendré une baisse du trafic. Il a donc fallu compenser et s'orienter vers les réseaux sociaux pour amener du flux sur les sites internet et applications de nos titres. C'était un chemin indispensable parmi tant d'autres. Donc aujourd'hui, ces réseaux sociaux, ils nous permettent de toucher des cibles, nouvelles cibles, des générations qui sont souvent jeunes d'ailleurs, mais pas uniquement, et qui ne se dirige pas naturellement vers les médias traditionnels, et par médias traditionnels j'entends évidemment le papier, mais aussi le site internet, l'application, puisqu'on sait que beaucoup de jeunes s'informent aujourd'hui sur, et pas que des jeunes hein, encore une fois, mais sur les réseaux sociaux.
Vous expliquiez notamment, donc vous parliez un petit peu de ces relations. Moi, je avant d'aborder peut-être les côtés un petit peu plus négatifs de cette dépendance, mais il y a des côtés positifs à souligner par rapport aux réseaux sociaux. Moi, je pensais notamment au lien avec les lecteurs, ce qui remplace un petit peu le traditionnel courrier des lecteurs. Enfin, voilà, dans quelle proportion est-ce que ça a pu permettre peut-être de créer davantage de liens avec les lecteurs, ou peut-être que vous allez me contredire en me disant qu'au contraire, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas, quel est votre regard dessus ?
Non, je dirais que tous les nouveaux leviers à activer sont forcément positifs. Moi, je vous parlais effectivement des nouvelles audiences qu'on vit à travers ces réseaux sociaux, mais effectivement, il y a un enjeu, et c'est l'un de nos 4 axes stratégiques sur les réseaux sociaux, générer de l'engagement qui soit respectueux, donc de susciter le débat, de créer de la proximité, de la confiance aussi, de montrer montrer qu'en fait on est là tout bêtement et que la vie de nos lecteurs nous intéresse. Et là, par engagement, j'entends notamment l'interactivité qu'on peut avoir sur des sujets à travers des sondages, des questions. Donc je dirais que la communication, l'échange sur les réseaux sociaux, il est forcément facilité par les réseaux sociaux, même si effectivement ça peut amener à des dérives qu'on connaît bien quand on parle de haters, de personnes qui se lâchent plus facilement pour faire des commentaires négatifs en étant derrière un écran.
Ouais, le travail de modération notamment, comment est-ce qu'il se met en place dans votre groupe? Parce que j'imagine que les commentaires sont parfois très compliqués.
Bien sûr, alors on le délègue, la modération, on délègue pas totalement, puisqu'en fait on le délègue en partie à une entreprise externe spécialisée dans la modération sur Internet d'ailleurs et sur les réseaux sociaux, qui a une sorte de modération automatique, pardon, mais qui peut aussi apporter une surveillance qui est humaine et avec qui on peut travailler aussi pour signaler un sujet qu'on va mettre sur les réseaux sociaux et qu'on juge comme étant potentiellement qui pouvant potentiellement attirer des commentaires négatifs. Et donc là, on sera dans de la veille anticipée où on dira attention, ce sujet, il faut le surveiller de près. Donc pour cette partie-là, c'est une grosse partie en tout cas de la délégation.
Ouais. Est-ce qu'on s'interdit de temps en temps même de publier certains contenus sur les réseaux sociaux en se disant là, c'est beaucoup trop explosif, et même en mettant une ou deux personnes en modération, ça va être trop compliqué de tout gérer?
Non, je pense qu'il ne faut pas se censurer. Effectivement, cette surveillance, cette veille, elle est indispensable sur certains sujets pour ne pas laisser des commentaires déplacés, injurieux, racistes, homophobes émerger. Par contre, il faut davantage cibler aussi nos publics. Certains sujets n'auront par exemple rien à faire sur une plateforme comme TikTok et d'autres sur Instagram ou sur Facebook. Là, c'est plutôt la cible du public qu'on vise et le mode de traitement de l'information. Mais dans tous les cas, on sera sur un traitement sur des sujets sensibles qui sera le plus neutre possible, mais on le publiera.
Au Dauphiné, quels réseaux sociaux sont considérés comme les plus importants et pourquoi? Parce que bon, j'imagine, hein, je sais que dans des médias, on a des réseaux sociaux qui sont plus pourvoyeurs de lecteurs, de trafic sur nos sites internet que d'autres. Donc voilà, je voulais vous poser cette question.
Alors, très bonne question, parce que le trafic sur les sites internet, c'est quelque chose qu'on va peut-être aborder, donc je vais peut-être pas trop le développer, mais qui a de moins en moins de poids. Donc c'est pas forcément un indicateur, en tout cas celui qu'on va le plus surveiller. Donc si je devais désigner les plus gros réseaux sociaux pour le Dauphiné Libéré, ce serait en termes d'abonnés et donc de communauté. Et là, on a Facebook et X qui arrivent largement en tête.
Dans quelle mesure ces réseaux sociaux amènent du trafic sur vos sites internet aujourd'hui?
Alors ça, justement, c'est une question effectivement qui a beaucoup bouleversé nos habitudes, puisque effectivement, à l'origine, l'une des ambitions de notre déploiement sur les réseaux sociaux, c'était de faire du trafic sur Internet, sur notre site Internet et sur notre appli. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Par exemple, il y a une époque, quelques années à peine, où les réseaux sociaux représentaient 20 à 30% pour le Dauphiné Libéré de notre trafic sur le site internet. Aujourd'hui, j'ai récupéré les chiffres encore tout à l'heure, on est entre 5 et 8%. Okay. On est passé de 20 à 30 à 5 à 8% du trafic vers notre site internet et notre appli qui vient des réseaux sociaux. Et pour vous donner une idée encore plus flagrante, pour vous donner quand même, pour que vous ayez une vision assez précise de cette dégringolade, en un an, d'avril 2023 à avril 2024, c'est moins 30% du trafic qui est généré par les réseaux sociaux.
D'accord. Alors, où sont passés tous ces lecteurs qui... parce que, bon, j'imagine que votre trafic, enfin, je l'espère pour vous, en tout cas, n'a pas diminué d'autant. Où est-ce qu'ils sont passés ou par quelle porte ils rentrent désormais sur votre site internet, si ce n'est pas par les réseaux sociaux?
Alors ça, c'est une très bonne question aussi. On a développé tout un tas d'outils. Enfin, on essaye déjà d'attirer avec des nouveaux formats, de la vidéo, du podcast, des sujets aussi qui donnent envie, qu'on essaye de vendre un peu mieux, avec notamment l'aide d'un service marketing digital, mais aussi des newsletters, par exemple, pour compenser effectivement cette perte sur les réseaux sociaux. Après, tout ça est très dépendant également de l'actu, mais je vous rassure, effectivement, nos audiences digitales se portent globalement très bien. On n'est pas dans une chute libre. Effectivement, c'est juste la partie réseaux sociaux, comme d'autres leviers que je connais moins, hein, mais qui subissent cette baisse. Alors, c'est pas dû à un désintérêt de nos lecteurs, en tout cas pas uniquement, je pense, mais c'est dû aussi à des algorithmes qui évoluent. Facebook, on le sait bien, a comme stratégie mondiale de réduire les redirections hors de sa plateforme, au point de se détourner de l'industrie de l'information. Donc, et pour autant, tout à l'heure, on parlait du poids des réseaux sociaux. Facebook, c'est 95% de notre trafic web en provenance des réseaux sociaux.
D'accord.
Facebook, c'est 95%. Ex-Twitter, 4%. Et on a toutes les autres plateformes qui se partagent la maigre part restante du gâteau.
D'accord. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion quand même à moyen ou long terme sur, justement, par rapport à cette potentielle perte de lecteurs que peut amener ce déplacement de Facebook vers d'autres choses que de l'information
Oui, bien sûr. Alors, on parlait tout à l'heure de la stratégie réseaux sociaux au Dauphiné Libéré et plus globalement dans le groupe EBRA auquel appartient le Dauphiné. L'un de ses axes, c'est de développer la notoriété et l'image de notre titre à travers des contenus d'infos qui sont de qualité et en mettant en avant aussi tout ce qu'on peut retrouver de valeur ajoutée du journalisme. J'entends des longs formats, des enquêtes sur le long cours, des sujets qualitatifs audio aussi, comme des podcasts. Et en fait, cet axe-là, pour répondre à votre question, il vise aussi à habituer les générations qui ne nous lisent pas ou qui ne nous lisent pas encore, justement, à concrétiser un acte d'abonnement par la suite, de les habituer finalement à ce que l'information de qualité et vérifiée vienne de nous, entre autres, mais qui plus est locale en ce qui nous concerne, peut-être un jour de provoquer le déclic, ce déclic qui est qu'ils vont s'abonner chez nous parce qu'ils se disent qu'ils trouvent justement une information de qualité sur les réseaux sociaux et que pour en avoir plus, il faut effectivement aller sur le site internet.
Donc sortir en quelque sorte des réseaux sociaux, ou en tout cas, si ce n'est pas sortir, mais en tout cas se détourner un petit peu, c'est aussi sortir de la logique de partage des articles pour revenir sur une logique de lecture davantage des articles, parce que ce qu'une interlocutrice m'a dit il y a pas très longtemps, et que j'avais trouvé assez intéressant dans sa réflexion, c'est qu'elle disait que depuis que les réseaux sociaux avaient pris place, on était davantage dans une logique de partage, mais plus forcément dans une logique de lecture. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Bah, c'est vrai que on remarque assez régulièrement que des articles, avant même d'être partagés, sont commentés ou likés parce que le titre a plu, l'accroche a plu, mais ça va pas se résumer forcément par un clic. Après, l'information qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement des liens qui renvoient vers notre site internet. Pour répondre à votre question, non, il s'agit pas de faire sortir ces gens des réseaux sociaux pour les récupérer sur notre site internet, mais en fait, notre ambition, c'est d'optimiser en quelque sorte ce qu'on peut appeler une complémentarité entre le papier, le web et les réseaux sociaux. Et de montrer qu'en fait, les réseaux sociaux, ben, c'est pas un tremplin, un relais ou une vitrine vers nos contenus, vers notre site internet. C'est pas ça, c'est en fait un média à part. Qui appartient à un ensemble de médias eux-mêmes appartenant au même titre, mais en fait c'est une façon de s'informer. Et je vous parlais tout à l'heure des contenus qui ne sont pas juste des liens qui renvoient vers notre site internet. En fait, on fait beaucoup et de plus en plus depuis 2 ans de contenus qui même ne vont pas du tout renvoyer vers notre site internet. Il y aura pas systématiquement un lien dans nos contenus, notamment parce que sur Instagram, vous le savez sans doute, c'est impossible en fait de faire un lien, hormis en passant par la bio. Mais comme il s'agit aussi de développer notre notoriété et l'image de ce qu'on peut appeler notre marque, en fait, on veut aussi donner de l'info gratuitement sur les réseaux sociaux à notre communauté pour lui montrer qu'on fait un boulot de qualité, que notre information est fiable et vérifiée. Et donc ces contenus-là, c'est ce qu'on appelle des posts natifs, c'est des photos, des carousels, comme on les appelle, des diaporamas avec des infos sur plusieurs slides, des reels et autres vidéos souvent verticales qui durent 1 minute 30. Et 1 minute 30, finalement, c'est l'équivalent d'un sujet sur un JT. Donc on délivre beaucoup d'informations par les réseaux sociaux. Mais c'est ni plus ni moins qu'un levier de plus pour s'informer au Dauphiné Libéré.
Ouais, donc c'est aussi essayer de semer un peu une graine pour amener les gens à ensuite rentrer naturellement sur votre site internet sans passer par un intermédiaire, développer ce que vous disiez, votre notoriété par ce biais-là, c'est ça ?
Exactement, et en fait c'est ce qui nous amène précisément au quatrième axe de notre stratégie, en fait, qui est de générer un trafic de qualité sur notre site internet. On a remarqué il y a 2 ans au moment de l'étude, peut-être 3, j'étais pas encore à ce poste, mais que on avait un taux de rebond impressionnant du trafic qui venait des réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'il y avait une grosse part de trafic qui venait des réseaux sociaux, mais qui finalement quand elle arrivait sur notre site internet repartait aussitôt. Là en fait on espère attirer des internautes qui sont sensibles à ce qu'on fait, qui sont intéressés par l'info qu'on délivre et qui donc vont cliquer en sachant ce qu'ils vont trouver, ou en tout cas en ayant une idée de ce qu'ils pourront trouver en cliquant, et qui vont ensuite rester sur notre site internet. Donc rester pour consulter soit un contenu gratuit et qui nous permettra aussi de porter nos audiences même gratuites du site internet, ou qui vont rester et aller jusqu'à l'acte d'abonnement pour consulter un article réservé à nos abonnés, ou parce qu'ils s'habituent à lire des articles ou à regarder des vidéos de qualité sur le site internet.
Donc qu'est-ce que vous avez à répondre aux gens qui disent parfois, là j'en avais encore entendu un il y a pas longtemps, qui disait que par rapport aux Reels justement qu'on n'était pas forcément trop dans de l'information, mais que c'était plus des choses de forme que de fond, avec une petite musique d'ambiance qui ne se prête pas forcément toujours au sujet qui est illustré. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela par exemple?
Eh bien, sans doute que cette personne avait une très bonne raison de dire ça, mais j'ai envie de tordre le cou à ce préjugé, parce que, et c'est pas de la langue de bois, hein, mais en fait, en 1 minute 30, on peut dire beaucoup de choses. Pourquoi on n'arriverait pas à faire un contenu de qualité en 1 minute 30, alors que je parlais tout à l'heure des sujets au JT? Alors, je suis pas un expert en audiovisuel, mais il me semble qu'on est souvent autour d'1 minute 30 également, et pour autant, on a de l'info de qualité. Là, effectivement, vous parliez du ton, du rythme, de la petite musique qui rythme le sujet. Faut pas oublier qu'on vise un public qui est jeune, qui swipe vite, qu'on a envie de garder aussi, et qui est sensible à ces vidéos-là, qui vont vite, qui sont saccadées, qui ont une musique effectivement, et qui ont aussi des éléments qui apparaissent sur l'écran de toutes les couleurs, un peu gros ou moins gros. Mais c'est comme ça qu'ils s'informent. Donc nous, notre objectif, c'est, et comme tous les médias, hein, je pense, de les toucher, de leur apporter l'info qu'ils recherchent en utilisant les codes, les formats qui lui plaisent. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est ni plus ni moins qu'une façon de rentrer dans leur téléphone, puisqu'on sait qu'ils vont pas venir acheter le journal chez un diffuseur, puisqu'on sait qu'ils vont pas se connecter sur le site internet, qu'ils vont même pas télécharger l'appli, en tout cas pour la plupart, hein, de notre journal. Et ben autant aller le toucher par les leviers qu'il utilise pour soit se divertir, des fois se documenter, ou même s'informer.
Pour revenir aux relations un peu de dépendance que l'on peut parfois constater via les réseaux sociaux, je voulais revenir un petit peu sur un point d'histoire. Il y a à peu près 5 ans, loi française sur le droit voisin, et Facebook avait alors décidé de supprimer l'enrichissement des contenus renvoyant vers des acteurs de la presse, et ce qui incluait notamment les photographies, photographies qui ont pour particularité d'attirer le lecteur et de l'inciter davantage à cliquer sur le lien, outre le fait qu'elle est tout simplement illustratrice, enfin illustrative du papier. Est-ce que vous vous souvenez de cette période et de comment on avait pu la gérer au Dauphiné Libéré? Parce que moi, je vous dis que dans le groupe Centre-France, ça n'avait pas forcément été une période très très simple.
Et c'était très moche. C'était très moche d'avoir ces liens-là, sans photo, qui avaient été effectivement bannis de l'affichage qu'on pouvait avoir sur les réseaux sociaux. Oui, je m'en souviens évidemment parce qu'on l'a vécu de plein fouet. Alors, j'étais pas encore au poste que j'occupe. Alors, j'ai pas la vision, en tout cas, réseaux sociaux, mais je me souviens que nos contenus, effectivement, passaient un peu plus inaperçus. D'ailleurs, l'algorithme ne les privilégiait pas déjà. Et quand on arrivait effectivement sur un contenu d'info, ben, on n'avait pas envie de cliquer dessus parce qu'on avait juste un titre et l'image, on le sait bien, joue beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, on a eu comme levier, hein, parmi tant d'autres, mais la carte de jouer justement le poste natif, on pouvait continuer à mettre des liens d'articles, mais en utilisant une photo qui n'était pas la photo de l'aperçu de l'article, mais une photo qu'on chargeait directement en complément du lien. Et c'est quelque chose qu'on fait toujours d'ailleurs, parce qu'on parlait tout à l'heure des vidéos, mais les images, et on passe beaucoup par un outil qui s'appelle Canva pour mettre des images qui sont très chartées aux couleurs du Dauphiné. Ces images-là sont aujourd'hui favorisées par l'algorithme par rapport à un post-lien qui esthétiquement déjà sera moins joli, mais en plus ces contenus-là circulent beaucoup plus facilement et donc bénéficient d'une audience qui est plus large. Donc on continue à le faire, mais effectivement c'était l'une des possibilités pour contourner le sujet.
Vous avez dit, hein, tout à l'heure qu'on a largement baissé au niveau du taux d'entrée sur vos sites internet via les réseaux sociaux. Justement, est-ce que cet épisode-là a été un épisode qui a amené les éditeurs de presse, les gens qui travaillent auprès des réseaux sociaux et du numérique dans les groupes de presse, à s'interroger et à trouver des stratégies alternatives pour en sortir un petit peu de cette dépendance?
Oui, et d'ailleurs tout à l'heure, moi je vous ai donné quelques chiffres qui étaient globaux sur l'ensemble des réseaux sociaux. Mais je tiens aussi à préciser d'ailleurs que ce constat-là, c'est pas uniquement au Dauphiné Libéré, hein, c'est vraiment un constat global. J'ai trouvé tout à l'heure une enquête, en tout cas les résultats d'une enquête qui a été menée par la plateforme Chartbeat, qui est une sorte d'outil de mesure des audiences des sites internet et notamment des sources.
On l'utilisait à Centre France aussi.
Parfait. Et par Similar Web, qui là est une plateforme d'intelligence numérique. Cette enquête, elle dit que en un an, donc de 2023 à 2024, le trafic web en provenance de uniquement Facebook a baissé de 50%, et au Dauphiné, on est passé il y a deux ans à 12% du trafic web en provenance de Facebook à 5-7% aujourd'hui. Vous me posiez la question des stratégies qu'on peut imaginer pour contrer tout ça. L'une des stratégies, et on y travaille beaucoup en ce moment, l'un des axes en tout cas, c'est de viser d'autres plateformes aussi. D'autres plateformes qui vont, je parle d'autres médias sociaux, hein, qui vont nous permettre, non pas forcément de faire du trafic, mais de diffuser notre image aussi plus largement pour truster le changement d'algorithme de Facebook. On s'est lancé sur TikTok le 27 novembre 2023. On a ouvert une chaîne d'actu WhatsApp le 15 janvier. Et d'ailleurs, j'en suis assez fier, on a atteint les 34 000 abonnés en si peu de temps. Ça, c'est les solutions, on va dire, réseaux sociaux. Après, il y a sans doute, j'imagine, tout un tas d'autres leviers. On parlait des newsletters tout à l'heure, hein, pour justement amener du trafic, continuer à amener du trafic sur le site internet. Autre stratégie, être les premiers sur une info qui est fiable et qui a été vérifiée. Je vous parlais tout à l'heure des outils, des contenus un peu différents qu'on peut proposer. Les podcasts dans une voiture, on sait très bien que ça fonctionne très bien. C'est pas juste tendance, mais c'est vraiment une nouvelle façon de consommer de l'info ou du divertissement. Et puis, bien sûr, conserver une relation de confiance avec nos lecteurs. Mais là, je me répète un peu par rapport à ce que je disais au début.
Mais ça va être ma dernière question et ça va suivre ce que vous disiez. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer en 2024 que les groupes de presse, ou en tout cas, si je prends l'exemple du Dauphiné, est-ce qu'on est moins dépendant des réseaux sociaux qu'on a pu l'être à une certaine époque? Est-ce que ces stratégies commencent vraiment à porter leurs fruits?
Alors, ça dépend de ce qu'on entend par dépendant. Si effectivement on parle de trafic vers le web, en effet, on a un peu perdu en quantité sur les réseaux sociaux. Après, si on parle de dépendance en termes de consommation de l'info et de ce qu'attendent les cibles qui ne viennent pas naturellement vers nous, bah effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est the place to be, ce serait impensable de ne pas y être, en tout cas si on veut continuer à habituer nos lecteurs, et les plus jeunes notamment, à ce qu'on sait faire, et surtout à l'importance de s'informer et de vérifier ces infos. Je pense que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses qui ne devraient pas exister parce qu'elles sont fausses, parce que elles alimentent des théories du complot. Et notre rôle, c'est évidemment de démonter ces fausses informations. Mais si on les démonte sur un format, sur un support qui n'est pas utilisé par ces publics-là, ça n'aura aucun effet. Donc, plus encore que les éditeurs, je dirais que le journalisme est dépendant des réseaux sociaux, parce qu'il en va aussi de sa survie. Et je suis persuadé de toute façon que l'information aura toujours un sens et que les publics chercheront toujours à s'informer.
Alors, je disais que c'était ma dernière question, mais en fait c'est mon avant-dernière, et la prochaine question est la toute dernière cette fois-ci, et elle suit ce que vous disiez. Alors, dédicace à Erwan Cochery, hein, mon camarade de qui m'envoie un SMS, qui me demande comment seront les médias dans 30 ans. Voilà, c'est la petite question, et elle suit quelque part votre réflexion de tout à l'heure.
Eh bien, c'est une excellente question à laquelle j'aimerais avoir une réponse, mais bah, honnêtement, c'est impossible à dire, parce que si moi j'ai un peu plus de 10 ans d'entreprise au Dauphiné Libéré, et c'est allé à une telle vitesse depuis mes débuts. Je veux dire, j'ai fait quand même des études. Je voulais me spécialiser dans la presse écrite. On m'a redirigé vers une section polyvalente, et je remercie aujourd'hui le hasard de m'avoir dirigé vers cette section, parce que j'étais le seul à partir en presse écrite. Mais en fait, c'est combien utile. Je ne le savais pas à l'époque, mais de savoir faire de la vidéo, du montage, du son, tout ça s'est développé extrêmement vite. L'arrivée des réseaux sociaux est arrivée très récemment dans le game, si je peux dire. Donc, en 10 ans, le métier s'est métamorphosé en une chose qu'on pouvait même pas imaginer il y a 10 ans. Alors, vous dire ce que sera le métier dans 30 ans. En tout cas, encore une fois, je suis persuadé que le métier continuera d'exister dans 30 ans. Sous une forme qui est un mystère aujourd'hui, mais voilà, ça existera, et ça sera très important que ça continue d'exister.
Et alors bon, peut-être que vous avez aussi la même réponse pour et la radio dans 30 ans, parce que la question aussi, c'est parce que tout simplement nous fêtons nos 30 ans à Radio Campus Orléans, donc c'est aussi pour ça que on pose cette question.
Eh bien, je vous souhaite un bon anniversaire à toute l'équipe de Radio Campus Orléans dans ce cas. Bah, malheureusement, je suis encore moins un expert en radio. J'ai l'impression que ce sera peut-être mais comme on le voit avec la télé aujourd'hui, beaucoup des contenus à la demande. Mais je suis sûr que Radio Campus Orléans trouvera sa place dans tout ça dans 10 ans. Dans 30 ans, pardon.
Ah ben, je vous remercie. J'espère que je serai encore là pour le constater. Merci beaucoup, en tout cas, Rémi Miret. Je rappelle pour nos auditeurs, vous êtes journaliste au Dauphiné Libéré en charge de missions digitales et réseaux sociaux. C'était un plaisir de vous avoir à notre antenne. Très bonne journée à vous. Merci encore.
Un plaisir partagé. Merci.
Merci. Et c'est bon pour notre enregistrement.
Médias et numériques libres.
Ondulation.
Ondulation.
Médias et numériques libres.
Ondulation.
Ondulation.
sourire. Faudra bien qu'ils reviennent un jour. Faudra bien qu'ils reviennent. Faudra bien qu'ils reviennent un jour. Faudra bien qu'ils reviennent. Faudra bien qu'ils reviennent un jour. Faudra bien qu'ils reviennent. Parce que votre sourire. Faudra bien qu'ils reviennent un jour. Faudra bien qu'ils reviennent. Et moi ce jour-là, je serai là avec mon Polaroid et hop dans la boîte, ça se passe entre deux gares. On se quitte au bout d'une heure, c'est absolument sans risque. Alors à combien vous l'évaluez votre chagrin? L'impression de ressembler à un lavabo qui se vide, l'impression de jouer des petits rôles, des rôles de mecs qui subissent. Jamais l'histoire bascule, jamais, pour l'instant. Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Peut-être pas demain, mais un jour. Faudra bien qu'il revienne un jour. Que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Parce qu'il y a des moments c'est beau, vous verrez, c'est pas toujours la merde. Des fois c'est beau, la vie est mal foutue, je vous l'accorde. Je sais pas si c'est de l'or, je sais pas si c'est du diamant, je suis pas géologue. Mais enfin de temps en temps, à force de patauger dans le caca, on découvre une pépite. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on foute pas notre vie en l'air et qu'on nous fasse des petits sourires. Faut pas avoir peur, on a tous peur, j'ai peur. Mais est-ce que c'est une raison pour mourir? Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Peut-être pas demain, mais un jour. Faudra bien qu'il revienne un jour. Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne un jour.
Sei que o seu relógio está sempre lhe acenando, mas não buzine que eu estou paquerando. Você anda apressado demais, correndo atrás de letras, juros e capitais. Um homem de negócios não descansa, não. Carrega na cabeça uma conta corrente, não perde um minuto sem lucro na frente. Juntando dinheiro,
imposto sonegando,
passando contrabando. Seu relógio está sempre lhe acenando, mas não buzine que eu estou paquerando.
Sei que seu relógio está sempre lhe acenando, mas não buzine que eu estou paquerando.
A sua grande loja vai vender a mão farta, doença terça-feira e o remédio na quarta. Depois em Copacabana, no Rua Augusta. Os olhos bem abertos nunca facilitar. O dólar na esquina sempre pode assaltar.
Mas netos e bisnetos irão me sucedendo,
assim sempre correndo.
Pois a grande cidade não pode parar. A grande cidade não pode parar.
Sei que o seu
relógio está sempre lhe acenando, mas não duvide que eu estou paquerando. Sei que o seu relógio está sempre acenando.